Il est 7h11 sur France Culture. Tout de suite, l'invité culture.
Je ne suis pas un clochard. Je suis Dodo. Dodo Fessen Coup de Roche. Maintenant, je suis ici en France. Je ne vais pas retourner là-bas dans l'île. Je suis venu ici pour trouver un endroit où paix mouille. Peut-être que nous sommes frères et sœurs, je ne le sais pas encore. Je reste assis à ma table. Je ne mange pas le gâteau. Je ne bois pas l'orange ou le café. Ma bouche ne retient pas et je ne veux pas baver devant les autres. Pourquoi, parmi tous, m'ont-ils choisi? Je ne suis pas l'ambassadeur des clochards. Je ne suis pas l'admirable hobo. Je suis Dodo. Seulement Dodo. Rien que Dodo.
Premier invité des matins du samedi, un écrivain dont la parole est rare, et pas seulement parce qu'il vit actuellement en Chine. Il nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce matin, alors qu'il revient en France pour la parution d'un nouveau roman, la même semaine que l'annonce du prix Nobel de littérature 2017, lui qui l'a reçu, voilà 9 ans. Bonjour Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, écrivain, donc prix Nobel de littérature en 2008. Vous venez de lire un extrait de votre nouveau roman, Alma, qui vient de paraître chez Gallimard. On dit toujours, en vous présentant écrivain et prix Nobel de littérature, vous appréciez qu'on rappelle toujours que vous avez eu le Nobel?
Oui, c'est pas grave.
Vous nous en voulez pas?
Non, pas du tout.
Quand vous avez entendu, comme nous, puisque vous étiez ici en France, l'attribution du prix Nobel de littérature 2017 à Kazuo Ishiguro, vous qui souhaitiez que ce fût un écrivain chinois, bon bah là, on a un Britannique d'origine japonaise, ça vous a fait plaisir, en dehors de sa nationalité, que oui. ce prix soit remis à Kazuo Ishiguro?
Oui, je ne connais pas bien. J'ai lu un de ses romans en anglais, The Remains of the Day.
Les vestiges du jour.
Et j'ai vu le film aussi.
De James Avery.
Donc j'étais content de connaître un petit peu, mais pas trop. Donc c'est bien, c'est une incitation à le connaître davantage.
Oui, c'est toujours bien pour ça, les prix Nobel. On vous avait laissé, Jean-Marie Gustave Le Clézio, en 2011, alors que vous étiez invité pour une carte blanche par le Louvre et la parution d'un recueil de nouvelles, Histoire du pied et autres fantaisies. C'était une série de portraits de femmes, d'hommes, d'enfants, d'ici et d'ailleurs, des éclopés du monde, des abîmés, des bafoués. On vous retrouve avec Alma, qui est cette fois un roman. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas écrit un roman, c'est votre grand retour au roman. Mais malgré tout, vous restez dans cette veine des éclopés du monde. Des éclopés du monde qui commencent d'ailleurs par une énumération de noms. C'est quoi ces noms qui sont une liste au début du livre?
C'est l'origine du roman. Il y a bien longtemps, peut-être, je ne sais pas, 40 ans, quelque chose comme ça. Je suis à Paris, je vais rue Oudinot pour lire les noms des esclaves. Parce que les esclaves qu'on baptisait étaient inscrits dans un rôle qui était déposé ensuite au ministère de la Marine. Et parce qu'ils venaient tous en bateau. C'était un trafic officiel. La Compagnie des Indes était la grande actrice du trafic des esclaves. Et je voulais voir leur nom, et même, j'aurais aimé, le lieu ne s'y prêtait pas, mais j'aurais aimé les lire à haute voix. Bien que ce soit des noms peut-être un peu imaginaires pour la plupart, pas leurs vrais noms. Mais j'avais envie de les entendre, parce que quand vous êtes originaire de ce pays, Maurice, enfin originaire par ma famille, je n'y suis pas né, vous avez l'impression qu'il y a une partie de l'histoire qu'on a gommée, on l'a effacée. Et cette partie de l'histoire n'est plus que dans les archives. Et quand vous allez à Maurice, les seuls monuments, ce sont ces pyramides de roches noires qui parsèment l'île, que les touristes voient en passant et se demandent un peu qu'est-ce que c'est. Et personne ne leur dit, mais ce sont les esclaves qui ont amoncelé ces pierres pour nettoyer les champs, pour qu'on puisse planter le blé puis la canne à sucre.
Donc donner cette liste de noms d'esclaves oubliés, d'inconnus, ce serait placer le livre comme un hommage ou même comme un tombeau littéraire d'emblée?
Un tombeau, c'est un peu sinistre, mais on est en manque à Maurice, mais d'une façon générale, dans l'Europe conquérante, on est en manque de reconnaissance de tout ce que ces hommes, ces femmes ont fait pour que nous vivions dans une prospérité industrielle et dans le confort moderne. Notre civilisation, elle est édifiée sur ces disparus. Et on ne le sait pas, on ne le dit pas.
Et la littérature est là pour dire ce qui a disparu à la place des hommes qui n'arrivent pas forcément à le formuler ou à le mettre en mots. Votre narrateur, l'un de vos narrateurs, mais disons l'un de vos personnages, le narrateur Jérémy Felsen, dit dans un prologue, je le cite, hein, « Je ne suis pas né dans ce pays, je n'y ai pas grandi, je n'en connais presque rien, et pourtant je sens en moi le poids de son histoire, la force de sa vie, une sorte de fardeau que je porte sur mon dos partout où je vais. » Vous disiez que Maurice était en quelque sorte vos origines, la terre de vos ancêtres en tout cas. Est-ce que ça sonne comme une confession, ce que dit Jérémy Felsen?
Ben oui, c'est une grande partie de moi, et dans ce personnage, il est plus jeune que moi, mais j'ai imaginé quelqu'un qui est dans la quarantaine et qui n'est pas marié, qui a une petite amie en France, mais qui décide un jour de retrouver quelque chose dont on lui a parlé. Et ce quelque chose, c'est l'île Maurice, c'est une terre imaginaire qui est faite de bruits, de légendes et de livres lus, et aussi d'objets. Jérémy a... La première chose qu'il a retenue de ce passé lointain, c'est un bizarre caillou rond qui se trouve sur l'étagère de son père. C'était pas mon cas, je n'ai pas connu ce caillou, je l'ai connu longtemps après.
Une pierre blanchâtre.
Oui, une pierre blanchâtre qui s'appelle un gastrolite. On pensait longtemps que c'est une concrétion que fabriquait l'oiseau, parce que c'est tellement grand qu'on se demande comment il a pu avaler, mais simplement que... Le dodo, comme l'autruche, était capable d'avaler des objets de grande taille.
Alors, je vous interromps parce que tous les auditeurs, surtout à cette heure-ci de la matinée du samedi, ne savent pas nécessairement ce qu'est le dodo. Le dodo, c'est un oiseau, ou c'était plus exactement un oiseau, l'oiseau emblématique de l'île Maurice qui a disparu au XVIIe siècle.
Oui, à la fin du XVIIe, début XVIIIe, c'est Raphus cuculatus. C'est une variété de...
C'est un drôle d'oiseau, faut dire.
Un drôle d'oiseau, une sorte de colombe, mais énorme, qui marchait en se dandinant. Les premiers voyageurs disaient, on dirait des bourgmestres, tellement ils sont un pas pesant. Mais c'était des oiseaux fort sympathiques.
Et qui... entre le pigeon et le dindon, quand on voit des images?
Entre l'autruche et les
meules. Ah oui, carrément, c'est beaucoup plus gros.
Énorme,
oui.
Vraiment
beaucoup
énorme.
Beaucoup plus gros.
Oui, avec un pas très lourd. Mais c'était des êtres très sympathiques. Et quand les premiers humains sont arrivés, c'est-à-dire les Hollandais en gros, quand ils sont arrivés sur l'île, ces oiseaux sont venus leur souhaiter la bienvenue. Et en récompense, on les a assommés et on les a mangés. Mais il paraît qu'ils étaient infects. Les Hollandais l'ont appelé très rapidement l'oiseau de nausée. Parce que quand on en mangeait, on avait tout de suite la nausée. Mais on a continué à les tuer jusqu'au dernier.
Décimé, et vous avez dans Alma, Jean-Marie Gustave Leclésio, des pages qui sont des pages absolument bouleversantes de cet oiseau, peut-être l'un des derniers, tué à coups de pierre, justement, par les hommes. On va pas les lire ici. Mais justement, c'est aussi ça, Alma. C'est un hommage, on le disait tout à l'heure, à des oubliés, à des inconnus. Je dirais des humains, mais aussi une nature. Parce que vous êtes très très loin de la carte postale de l'île Maurice. Non seulement parce que la nature est sublime, mais elle est abîmée, mais aussi parce que les hommes... que vous racontez, que ce soit Dodo, qui est l'autre personnage central et sur lequel on va revenir, correspondance des noms, bien sûr, mais aussi les femmes, qui sont des femmes abîmées par la vie ou abîmées par les hommes, qui sont prostituées, qui sont violées, les animaux qui sont abattus. On a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la réalité brutale aussi de l'île. C'était une volonté de votre part de sortir des légendes et de l'imaginaire, donc de la carte postale.
Oui, Maurice... porte cette image double d'être une sorte de paradis coloré. Quand vous allez à Maurice, on vous cite toujours la phrase de Mark Twain qui disait « Si le paradis terrestre existe, il est à Maurice ». Il est passé par là, mais il paraît qu'il était ironique quand il a dit ça, qu'il s'en moquait un peu. En revanche, les gens qui ont vécu sur cette île et qui sont à l'origine de son développement savent que c'est loin d'être un paradis. Alors l'histoire du dodo, c'est caractéristique, c'était la première éveil, la première prise de conscience des dégâts que les humains pouvaient faire sur la Terre. C'était à Maurice. Très rapidement, quand les dodos ont disparu, même les Hollandais se sont inquiétés. Pourquoi cet oiseau est parti aussi vite? On n'en voit plus. Et ils avaient même mis sa tête à prix, celui qui rapportera un dodo vivant pourra recevoir une grosse somme d'argent. Et on est passé, on a cherché, il n'en avait plus, c'était déjà disparu. Et à peine vu, déjà disparu, c'est devenu un peu le symbole de la capacité des humains à détruire, non pas le paradis, mais à détruire une terre qui ne demandait qu'à continuer à être comme elle était. Elle avait survécu aux ères glaciaires, aux éruptions volcaniques, aux raz-de-marée. Elle avait survécu à tout ça. Et dès que les humains se pointent sur l'île, les dodos disparaissent, une variété de perroquets disparaît aussi très vite, et le pigeon rose lui-même semblait avoir disparu.
Puis oui, puis en 1796, la forêt recouvre encore les 9 dixièmes de l'île, ce qui a aussi disparu. Donc toute cette nature sauvage est en disparition à partir du moment où les hommes mettent le pied
Oui, c'était une île qui était couverte d'une forêt très épaisse, avec des espèces qui sont devenues rares, parce qu'elles étaient uniques à Maurice. Et toutes ces espèces vivaient en harmonie avec les animaux qui s'y trouvaient. Ainsi, vous avez une plante qui s'appelle le Gastonia, parce que c'est, j'imagine, ça a été identifié par un certain monsieur Gaston. Le Gastonia mauriciana, qui est une sorte de petit palmier qui ne peut pousser que si un certain lézard vient polliniser ses fleurs. Donc, quand vous voyez l'arbre, il y a toujours le lézard dessus, mais il suffit de tuer le lézard, ça y est, c'est fini. Donc, on est toujours au bord du précipice, de la destruction.
Jean-Marie Gustave Clésio, on chemine là dans votre roman, dans Alma. On a parlé du narrateur, Jérémy Felsen, qui part sur les traces de ses ancêtres avec cette pierre du gésier de dodo, de cet oiseau disparu. Et on a une autre voix principale qui porte donc, je l'évoquais tout à l'heure, le même nom que cet oiseau. Dodo, c'est aussi un homme, mais c'est un garçon vagabond qui a une maladie depuis son adolescence, une maladie qui lui ronge les lèvres et les paupières. Elle porte le nom d'une lettre comme un epsilon.
Bon, c'est un sigma. C'est le sigma pour la syphilis.
C'est la syphilis. Oui, on se pose la question et vous y répondez.
On cachait la maladie sous cette lettre.
Dans cette correspondance entre les noms, entre les deux dodos, ce garçon dont on suit l'errance et dont on découvre les liens avec Jérémy Felsen, et ce dodo oiseau, est-ce que ça veut dire que pour vous, vous avez pensé un parallélisme ou est-ce que le premier dodo a inspiré l'autre ? Du coup, quel est le premier dodo qui vous a été inspiré, Jean-Marie Gustave Clésio, l'homme ou l'oiseau?
Peut-être les deux en même temps, mais le personnage a existé sous plusieurs noms d'ailleurs. L'un de ces noms était Malcolm de Chazal, un grand poète. Les Mauriciens le désignaient sous le nom du Perdiban. Perdiban, ça veut dire en créole mauricien, quelqu'un qui a perdu son groupe, perdu sa bande. Et donc Malcolm de Chazal était un Perdiban. Et il allait beaucoup à un endroit de Maurice que j'aime assez, qui s'appelle la Louise, qui est un carrefour où toutes les routes qui viennent de la côte et qui vont vers l'intérieur se retrouvent. Et Malcolm de Chazal disait, c'est le centre du monde. Et donc j'ai fait errer dodo, en effet, dans le carrefour de la Louise.
Quel rapport vous avez, vous, Jean-Marie Gustave Clésio, aujourd'hui, avec cette île Maurice? Votre livre est empreint de milliers d'odeurs, par exemple, qui semblent vraiment présentes pour vous.
Vous savez, je n'ai pas de clocher, je n'ai pas de village natal. Je ne peux pas m'identifier à quoi que ce soit nulle part au monde, sauf à ce petit point du monde. Non pas parce que ma famille en provient, non pas non plus parce qu'il est intéressant ou qu'il est beau, mais parce qu'on ne m'a parlé que de ça quand j'étais enfant. J'ai été intoxiqué, mais de façon grave, par mes grands-parents, par mon grand-père, par ma grand-mère, par mon père, par ma mère qui, elle aussi, descendait de Mauriciens. Ces gens ne parlaient que de Maurice. Et j'habitais Nice, et quand je quittais la maison où j'étais dans la rue, et je me disais, mais où sont les Mauriciens? Ils ne sont nulle part. Ils étaient tous dans cet appartement où je vivais. Donc les noms que j'avais écrits dans des cahiers quand j'avais une trentaine d'années, les noms que j'ai reçus de ma famille, tous ces noms dont on parlait, noms de famille, noms de lieux. Donc, parmi ces noms, il y avait Alma. Alma cognait à la fenêtre. Et j'avais régulièrement envie de parler d'Alma. Je ne savais pas trop ce que c'était.
C'est un nom de domaine, en fait.
C'est un nom de lieu, oui. Je pense que ça a reçu un nom qui n'était pas dû à la guerre de Crimée. C'était antérieur. J'ai pensé que c'était une femme qui avait un nom italien, Alma est un prénom italien, et qu'un de ses colons avait épousé une Italienne. Bon, donc ça, je l'ai imaginé, Mais je suis persuadé que ce nom n'a rien à voir avec la guerre de Crimée, ni avec le Zouave, ni avec le pont de l'Allemagne.
C'est ça qui est bien, Jean-Marie Gustave Le Clézio, avec les romans, c'est qu'on peut se permettre d'imaginer des choses. Par exemple, on peut aussi se permettre d'imaginer des musiques. La musique accompagne beaucoup votre roman. La musique accompagne en particulier Dodo. Une chanson, un air l'accompagne en particulier. Dans votre roman, il est composé par Schubert. Mais non, ça, c'est inventé par l'esprit de la fiction. En vrai, il a été composé, par exemple, par Beethoven. Auld Lang Syne, d'après un poème de Robert Burns de 1786, qui est d'ailleurs l'exergue d'Alma, Jean-Marie Gustave Le Clézio, composé là donc par Beethoven, qu'on connaît nous en français comme Ce n'est qu'un au revoir en fait.
Oui, oui, c'est un très beau poème que Robert Burns a écrit et qui a été un très grand succès avant de devenir presque une chanson à boire. Ça a été un très grand succès de musique classique. Et moi, j'ai imaginé que Schubert, qui aimait bien les airs populaires, s'en était emparé. Mais en fait, la version qu'on a entendue, c'est Beethoven. Et c'est très plaisant de voir que Beethoven, qui a une musique quelquefois un peu lourde, là, est très léger, plein d'optimisme.
Très enjoué, très léger, très enjoué, qui est presque une musique pour s'envoler. Vous êtes à Paris pour quelques jours, mais vous allez bientôt vous envoler à votre tour. D'abord parce que vous ne restez pas souvent dans un seul endroit, mais vous allez aussi vous envoler pour la Foire du Livre de Francfort, Jean-Marie Gustave Le Clézio, où la France est le pays invité à cette Foire du Livre pour la première fois depuis 30 ans. Vous allez y participer puisque vous êtes membre du jury du prix du Livre des 5 continents de la francophonie. Ça vous fait quoi qu'il y ait des auteurs français, mais pas seulement, des auteurs aussi francophones, c'est-à-dire de langue française? Est-ce que ça vous réjouit?
Oui, tout à fait, oui, oui. Pour moi, la langue française, en effet, c'est 5 continents, c'est un monde. Ce n'est pas limité à la géographie de la France. Et la littérature produite par ce qu'on appelait autrefois la marge, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés strictement sur le territoire français, ont été éduqués quelquefois dans une autre langue, mais qui ont choisi la langue française pour écrire, je trouve que c'est tout à fait merveilleux. C'est une aventure. Il n'y a pas beaucoup de langues qui aient cette pratique, qui aient cette ouverture. L'anglophonie, ça n'existe pas. L'hispanophonie, ça n'existe pas non plus vraiment. Mais la francophonie, si, ça existe. Ça existe parce que c'est non seulement un appel à entendre de nouveaux sons, de nouvelles paroles, mais c'est aussi un accord entre tous les membres de cette grande famille qui utilise la langue française. Et j'aime bien que Maurice soit un pivot de cette francophonie. Vous savez, la langue officielle à Maurice, c'est l'anglais. La langue parlée, c'est le créole. Donc la langue française, c'est un choix, et tout le monde la connaît. Mais c'est un des pays où il y a le plus d'écrivains au kilomètre carré. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres carrés, mais il y a une concentration d'écrivains à Maurice, c'est stupéfiant. Et ça, c'est dû à la beauté, à l'héritage et à la générosité de la langue française.
Allez, on continue avec vous dans deux petites minutes, Jean-Marie Gustave Le Clézio, autour de votre roman Alma, autour de la France, autour de la langue française. Il est 7h30 sur France Culture. Et les titres du journal sont présentés par Valentine Letesse. Bonjour Valentine.
Bonjour. Pour reconstruire Saint-Martin, il faudra plus de 3 milliards d'euros. Une information de nos confrères de France Inter. Le président de la collectivité, Daniel Gibbs, a présenté la facture cette semaine au gouvernement. Mais il a surtout essuyé un refus du ministère du Travail, puisque l'élu a aussi demandé une aide d'urgence pour permettre le paiement des salaires. Alors que le droit commun prévoit une indemnisation du chômage partiel à hauteur de 70% du SMIC. Mais Daniel Gibbs ne compte pas en rester là. Pourquoi cet immeuble du 16e arrondissement était-il visé? Le procureur de la République de Paris, François Molins, n'a pas donné de réponse claire. Mais une chose est sûre, il s'agit bien d'une tentative d'attentat. Et les conséquences de ces 4 bonbonnes de gaz aspergées d'essence dans le hall d'un immeuble auraient pu être, je cite, dramatiques. 3 hommes, dont 2 fichés pour radicalisation islamiste, ont été présentés à un juge antiterroriste hier soir. Le parquet national financier requiert le renvoi de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog devant un tribunal correctionnel. L'affaire des écoutes sur la fameuse ligne de téléphone ouverte sous le pseudonyme de Paul Bismuth. Des draps et des vêtements blancs attendus dans les rues de toute l'Espagne aujourd'hui pour montrer aux dirigeants qu'ils ont été incapables et irresponsables. Voilà ce qu'on peut lire sur une pétition lancée sur Internet. Hier, le président catalan a repoussé son intervention devant le Parlement prévu lundi. Au Royaume-Uni, c'est le début d'une guerre civile chez les conservateurs selon l'Evening Standard. Plusieurs dizaines de députés réclament le départ de la première ministre Theresa May alors que les négociations sur le Brexit avec Bruxelles reprennent lundi.
Eh bien, à tout à l'heure, 8h pour le journal complet de la rédaction. À suivre dans la prochaine demi-heure la suite de notre entretien avec Jean-Marie Gustave Leclésio. Et à 7h40, la fabrique médiatique sur la crise catalane dans les médias français avec Bernard Guetta de France Inter et Anna Navarro Pedro, correspondante du journal portugais Visão.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Maëlys Bessery.
Lundi 9 octobre, au moment où sera annoncé le prochain prix Nobel d'économie, nous nous glisserons dans la peau du célèbre économiste classique du XVIIIe siècle, David Ricardo. Gilles Delplace nous parlera de l'homme et de ses théories qui, aujourd'hui encore, nous aident à mieux comprendre la mondialisation.
Entendez-vous l'écho, ce lundi à 14h et sur franceculture.fr.
Et on retrouve notre invité Jean-Marie Gustave Leclésio, écrivain prix Nobel de littérature, on ne le dira jamais assez, auteur de ce nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard, intitulé Alma. Jean-Marie Gustave Leclésio qui est en France pour quelques jours. Vous nous parliez de la langue française, vous nous parliez de la diversité de cette langue. Est-ce que vous éprouvez le même sentiment de diversité quand vous arrivez en France? Ou plus exactement, est-ce que quand vous arrivez en France, vous avez le sentiment d'être aussi chez vous que quand vous êtes en Chine où vous vivez actuellement?
Ah oui, oui, tout à fait, oui. C'est la langue française, c'est pas seulement, ce sont pas seulement des mots écrits. C'est une langue qui a un grand pouvoir de séduction, qui a une grande variété d'expressions et qui, au fond, l'expression d'une culture très très variée, multiforme. Et il faut le dire, parce que faut dire que la culture de la langue française, c'est pas seulement la France. C'est tout ce qu'elle a accueilli et tout ce qu'elle propose. C'est un héritage révolutionnaire, c'est héritage religieux, c'est poétique, c'est imaginaire, c'est dans les rêves, c'est à chaque instant. Donc venir en France, c'est aussi, ça fait beaucoup de bien. Quand on en est absent, on arrive et tout à coup, on est saisi par la chance que les Français ont de vivre dans ce pays. C'est une chance incroyable. La liberté, la possibilité de s'exprimer, la possibilité justement de reconnaître la valeur de tous les pratiquants de cette langue à égalité sans qu'il y ait des privilégiés.
Est-ce que malgré tout, vous ne vous sentez pas encore plus français quand vous êtes en Chine aujourd'hui où vous enseignez la littérature française? Est-ce qu'on ne vous fait pas sentir que vous êtes français, pour le dire autrement?
J'ai deux identités. Je suis mauricien et français, donc je jongle un peu avec chacune de ces identités.
Ça vous aide?
Je crois, oui. Ça me permet de temps en temps un certain recul et un regard un peu humoristique. Mais pour moi, c'est très important de soutenir tous les efforts que font les écrivains pour la langue française. Et il faut remercier tous les pratiquants de cette langue parce que souvent, ils la pratiquent dans des grandes difficultés. Je pense pas nécessairement à l'île Maurice, mais au Liban, à la Roumanie, dans des pays où c'est très difficile d'affirmer cette identité française, enfin, ce goût, cet amour. Moi, j'aime pas beaucoup francophonie, j'aimerais mieux, je sais pas, amour de la langue française.
Mais c'est un peu long à dire.
C'est un peu long à dire, mais ça vaudrait la peine de parler d'amour plus que de son. Que ce soit pas le son de la langue, mais l'amour de la langue.
On évoquait tout à l'heure la foire de Francfort, il y a beaucoup de F à chaque fois, la foire du livre de Francfort, vous allez vous-même aller. Le président de la République française, Emmanuel Macron, y sera pour la cérémonie d'ouverture, je crois que c'est mardi prochain, jour aussi où Wajdi Mouawad, qui est un dramaturge, metteur en scène et directeur de théâtre français d'origine libanaise, fera une conférence intitulée « L'hospitalité des langues ». C'est beau ça, « L'hospitalité des langues ».
Oui, c'est très bien choisi comme nom. C'est en effet, j'y crois beaucoup. Autrefois, on attribuait cette vertu aux religions. Les religions pouvaient vous accueillir, vous protéger dans le cas d'extrémité, mais je crois que à notre époque, c'est plutôt ce partage par la langue, cet échange, cette capacité de recevoir et de donner. La langue française est admirable en ce sens. Quand on pense à tout ce qu'elle a donné, et tout ce qu'elle donne encore, et tout ce qu'elle va donner, non seulement, je ne sais pas de l'exotisme, mais dans toutes les variations qu'elle apporte, c'est ça qui est merveilleux. Donc, je suis un grand soutien de la langue. Je voudrais en profiter, puisque je suis là, et que nous avons parlé du prix des 5 continents, pour vous livrer, c'est une grande première. Le nom du lauréat de cette année, qui s'appelle Yamen Manai, qui a publié aux éditions Elizade, c'est une éditrice tunisienne, un très beau livre qui s'appelle L'amas ardent.
Fabuleux. Voilà. Merci de cette annonce, Jean-Marie Gustave Leclésio. Et vous l'avez lu, j'imagine, puisque vous êtes membre du jury.
Oui, c'est un très beau livre. C'est un livre drôle et en même temps très complexe, avec beaucoup de sous-entendus, d'allusions. C'est un livre de combat aussi, c'est pas seulement un livre drôle.
Marie-Gustave Leclésio, vous avez choisi cette chanson de Kirite Kanawa pour terminer, chanteuse néo-zélandaise. Une chanson qui s'appelle Beilero de Joseph Cantaloub. Pour quelle raison avez-vous choisi cette chanson?
D'abord, j'aime beaucoup Dame Kirite Kanawa. C'est une grande artiste qui a eu un destin tout à fait étonnant. C'était une petite indigène de Nouvelle-Zélande qui a été adoptée et qui chantait des hymnes, des cantiques religieux, et puis des chansons maoris. Et puis elle a été remarquée par un amateur de musique qui a remarqué cette voix étonnante. Je crois qu'elle avait 12 ou 13 ans, elle avait déjà la voix d'une soprano. Et il l'a invitée à venir étudier à Londres la musique. Elle est entrée d'abord au conservatoire, puis elle est entrée au grand opéra de Londres. Et elle est devenue une des cantatrices fétiches de la musique baroque.
C'est aussi très calme, très apaisant, et ça me fait penser à ce que vous avez dit l'autre jour sur France Inter. Je suis toujours en colère, c'est pour ça que je suis calme. Merci beaucoup d'être venu au matin du samedi de France Culture, Jean-Marie Gustave Leclésio. Et merci pour ce livre, Alma, qui vient de paraître chez Gallimard.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.